Nous allons parler avec Antoine Debecq et Jean Narboni du livre du premier cité, Godard, voilà, qui est simple comme titre au moins. Et quand on regarde la quatrième de couverture, la biographie, on a fait l'essentiel aux éditions Grasset. Une fois qu'on a entre les deux, entre ce nom Godard et la biographie, reste tout de même
940 pages sur papier bible.
On peut compter sur Pascal Horry pour et caractère très petit. Hein. Vous avez le corps de
non pas vraiment, mais c'est très petit.
C'est très petit.
Mais ça se lit très bien.
Bon, alors justement, donc pour dialoguer avec vous et avec Jean Narboni, à la fois témoin privilégié, acteur et celui qui regarde aussi peut-être un peu différemment de pas mal de ses contemporains, cet homme-là, Jean-Luc Godard, à mes côtés donc Pascal Horry, Michel Bouju, Antoine Guillot, j'avais peut-être envie quand même, Antoine Debecq, d'esquisser votre biographie, pourquoi pas s'y livrer aussi.
Si j'y mettais ça prendra moins de pages.
Si j'y mettais l'hypothèse que c'est parce qu'à 12 ans, votre grand-mère vous emmenait à des projections de Lanterne Magique à la Cinémathèque du Trocadéro que vous êtes devenu passionné de cinéma, bon, ça pourrait être une hypothèse. Si je disais que votre bac en poche, vous sentez un peu à l'étroit dans la capitale et que vous voulez devenir berger ou peut-être chasseur alpin, c'est peut-être par goût du western et des grands espaces du cinéma. Si François Truffaut n'était pas mort il y a un peu plus de 25 ans, vous n'auriez pas rédigé ce texte paru dans les cahiers du cinéma alors que vous aviez 22 ans, l'âge auquel le même Truffaut publiait ce fameux article, une certaine tendance du cinéma français, François Truffaut auquel vous avez consacré une biographie co-signée avec Serge Toubiana en 1996, goût de la biographie mais aussi goût des dictionnaires, Antoine Debecq, dictionnaire Truffaut, dictionnaire Piala, plus récemment. Le dictionnaire, ça a peut-être aussi à voir avec votre goût pour l'histoire. Alors, un goût forgé aussi au contact d'historiens à certains égards opposés. Michel Vauvel d'un côté, François Furet de l'autre. Je me suis toujours nourri des énergies contraires, dites-vous, Antoine Debecq, mais c'est peut-être pour les réconcilier que l'une de vos filles, née un 14 juillet, se prénomme Bastille. Hein, le biographe, il a affaire à ce genre de choses. Né un 14 juillet, il fallait quand même le faire, effectivement. Votre biographe, s'il est sérieux, devra lire tous vos livres, Antoine Debecq. Et quand on pense que vous n'avez pas encore 50 ans et que vous avez publié de si nombreux ouvrages, vous avez une idée du nombre de pages totales éditées, publiées par vous ?
Non, j'ai pas compté. Donc c'est pas...
Il faudrait le faire en mètres de linéaire de rayonnage de bibliothèques. Ça commence à faire beaucoup de place sur nos rayonnages. Et puis, il faudrait parler, bien sûr, de vos activités journalistiques. Vous fûtes successivement rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, responsable des pages culture du journal Libération et l'un des créateurs du site rue 89, encore décidément. La révolution est toujours proche pour vous. Et c'est peut-être ce qui vous a amené évidemment à publier ce livre aujourd'hui sur Jean-Luc Godard. De nombreux livres dans votre bibliographie, citons-en quelques-uns, Le corps de l'histoire, métaphore et politique 1770-1800, il y a près de 20 ans déjà, Les éclats du rire, moi, c'est un livre qui m'avait, je pourrais dire beaucoup amusé, mais pas seulement intéressé, La culture des rieurs au 18e siècle, c'était en 2000, plus récemment, La cinéphilie, invention d'un regard, histoire d'une culture, 44-68. Et encore plus récemment, le portrait ne serait pas tout à fait complet si l'on ne disait que vous êtes aussi un spectateur de théâtre, ce qui est une chose assez peu courante parmi vos camarades cinéphiles pour être souligné, et que vous avez notamment co-signé avec Emmanuel Loyer, que l'on salue bien, l'ouvrage indispensable sur les 60 premières éditions du Festival d'Avignon. Alors, Godard, donc, dont vous dites dès l'ouverture de ce livre, en préambule, évidemment, vous tourniez autour du sujet comme nombre d'autres depuis longtemps. Godard, le moins biographiable, est-ce que c'est un néologisme ou est-ce que c'est un mot qui est déjà dans le dictionnaire de l'Académie ? Je n'ai pas vérifié. Biographiable ?
Biographiable, c'est un néologisme, mais ça va bien avec Godard.
Bon, ben, ça va bien avec Godard. Le plus délicat des biographiables, donc, longtemps que vous tourniez autour, Antoine Debecq. Alors, ça vous a occupé, on l'imagine, un certain temps, mais ça commencerait quand, en fait, l'envie de cette biographie ? Est-ce que ça commence il y a 3 ans, 10 ans, 20 ans ?
Ça commence à plusieurs étapes. Je pense que la première étape, c'est effectivement il y a 20 ans, un peu plus même, maintenant bientôt 30 ans, la venue, enfin ma venue vers le cinéma qui qui est contemporaine, je pense, d'une des grandes périodes de Jean-Luc Godard, qui est le début des années 80, entre Sauf qui peut la vie, Passion.
Une de ses renaissances.
Voilà, une de ses nombreuses renaissances, et en tout cas, peut-être celle qui est une des plus impressionnantes en termes à la fois de volonté d'en être, d'une certaine manière, d'être le cinéma, et puis aussi cette maîtrise qu'il peut avoir à ce moment-là sur tous les éléments du cinéma et ce qui l'entoure, quoi. Donc c'est sûr que la première rencontre avec Godard, ce qui est pour moi important, c'était pas une rencontre avec un cinéaste au passé, c'était un cinéaste au présent. Et je pense que c'est quand même une des grandes forces de Godard, c'est d'avoir toujours été, et encore en ce printemps 2010 avec Socialisme qui sera montré à Cannes, un cinéaste contemporain, un cinéaste du présent. Et donc moi je l'ai rencontré comme ça, entre guillemets, Godard.
Oui, c'est vrai que j'ai cité tout à l'heure à midi, dans le sommaire de cette émission, les dernières phrases de votre livre, hein, Godard, toujours notre contemporain à 30 ans ou à 80 ans. 80 ans, il les fêtera, souhaitons-le, à la fin de l'année 2010, au mois de décembre. Hein, vous connaissez
le 3 décembre.
Mieux que moi sa date de naissance. Il a raté le 2, le 4, mais il a fait le 3 décembre. Jean Narboni, on a eu l'occasion de parler de vous régulièrement sur cette antenne. On en aura l'occasion bientôt, puisque sortira dans un mois maintenant un livre intitulé « Trois petits points, pourquoi les coiffeurs ?» point d'interrogation, notes actuelles sur le dictateur. On parle bien sûr de Charlie Chaplin. Ce sera l'occasion, je l'espère, d'une autre visite dans cette émission. Mais on avait parlé de vous aussi récemment avec Alain Fleischer, au moment où est sorti le film assez monumental, Morceau de conversation avec Jean-Luc Godard, édité depuis en 4 DVD aux éditions Montparnasse, et on avait souligné à quel point, parmi tous les témoins rencontrés par Alain Fleischer, parmi tous les moments comme ça de discussion de Jean-Luc Godard avec d'autres, vous étiez, pour ainsi dire, le seul à ne pas être soit dans la crainte, soit dans l'adoration, soit dans l'adulation de Godard, mais que vous étiez un des rares aujourd'hui, contemporains de Jean-Luc Godard, à pouvoir échanger véritablement, ou tenter d'échanger, si on peut échanger avec Jean-Luc Godard, en tout cas être en opposition parfois.
Oui, parce que j'ai une relation avec Godard qui est assez curieuse. Je le connais depuis très longtemps. Quand j'étais au Cahier du cinéma, il faisait des films, il passait régulièrement au bureau. Mais je le vois de loin en loin. J'ai jamais eu, souvent, les journaux ont dit « l'ami de Jean-Luc Godard », je ne me considère pas du tout comme un de ses amis, encore que cette notion est peut-être à expliciter concernant Godard, mais disons que je le vois de loin en loin, et en général, ça se passe plutôt bien. Alors, je n'ai pas fait le pèlerinage à Rolles, comme c'était le coutume à un certain moment. La première fois que j'ai mis les pieds, c'est quand il m'a demandé de venir pour le film de Fleischer. Et puis, bon, comme je ne dispose d'aucun pouvoir institutionnel, etc., et que je ne suis pas très groupie, bon, peut-être ce sont des choses qui facilitent les choses avec lui. Et puis également, la possibilité de discuter, parce qu'il a un rapport à la disputatio qui est très particulier. Il est à la fois très diagonal, un redoutable rhétoricien, et puis en même temps il peut casser net, donc là il faut un peu toujours fonctionner avec lui comme avec un fauve, quoi, qu'on aime beaucoup mais qu'on tient un peu à distance avec un Brandon pas enflammé pour pas lui faire mal, mais disons je l'aime beaucoup et j'aime bien être en contradiction avec lui également.
Oui, le dompteur Jean Narboni. Alors effectivement, on a entendu une chose importante, c'est que comme vous n'avez pas de rapports liés à des questions de pouvoir avec lui, pas plus que des rapports d'admiration. C'est peut-être, du coup, un échange est possible.
Admiration, oui, hein, mais pas, non, mais, disons, dévotion.
Pas dévotion, admiration.
Très grande admiration.
Oui, ça vous l'avez témoigné à de nombreuses reprises. Alors, par quel bout on attrape un livre pareil? Alors, il y en a 3 pages dans Libération ce matin. De nombreux articles, évidemment, signalent cette première biographie en français, française, sur Jean-Luc Godard. Il y en a eu 2 précédentes anglo-saxonnes, les 2, me semble-t-il. Antoine Debecq, c'est la première en France. Bon, qui s'y frotte, s'y pique, peu importe. Hein, vous dites que vous avez fait ce travail-là. Alors, qui s'empare et de quelle façon? L'historien Pascal Horry, tiens, le regard de l'historien Pascal.
Bah, on pourrait avoir un regard très général en disant, je ne sais pas si c'est une des pistes qui ressortent le plus nettement de la lecture, pour moi ça m'a sauté aux yeux, que Godard est historien aussi, c'est-à-dire qu'il a un regard sur la période qu'il a traversée, tout à fait exceptionnel, très discutable, très personnel, heureusement d'ailleurs, mais ça c'est sans doute parce qu'Antoine de Bec est lui-même historien, il l'a senti, mais ça se confirme de page en page, et je précise tout de suite que sur 800 pages, il y en a 400 qui sont postérieurs à 68. Et 68 n'est qu'au milieu, parce que nous sommes assez nombreux, j'en suis très sincèrement, puisque je ne suis pas un cinéphile absolu, je suis un cinéphile relatif de la grande époque des années 60, et puis j'ai un peu décroché ensuite. Je suis de ceux qui ont accompagné Godard jusqu'à la fin des années 60 et beaucoup moins après. Mais alors, puisque je suis historien de service, apparemment, on va peut-être commencer par les origines. Dans quelle mesure est-ce que, parce que c'est un ouvrage fabuleusement documenté, est-ce qu'on peut dire que la dimension suisse est importante pour le comprendre, qu'elle n'est pas anecdotique, c'est pas simplement une matière à plaisanterie, d'autant plus que c'est un personnage qui circule sans arrêt dans sa jeunesse entre la Suisse et la France. Et puis la dimension protestante, je suis peut-être un petit peu obsédé par ça. Moi, j'ai découvert en lisant l'ouvrage d'Antoine de Bec, par exemple, il est issu de la grande famille des Monod aussi. Donc, ce rapport protestant au monde, ça doit quand même permettre d'éclairer le personnage, non ?
Oui, ça, je pense que aussi bien la Suisse que les Monod, que la famille, donnent des clés. Par ailleurs, le personnage reste entièrement mystérieux, enfin entièrement, en tout cas, il garde ses secrets, ça c'est évident. Mais c'est vrai que je pense que, par exemple, pour la famille, il était indispensable pour moi de recontextualiser cet horizon familial, puisqu'il n'est pas anodin du tout. C'est vrai que c'est une des grandes familles, une sorte de lignée comme ça, protestante, de grandes familles aussi bien intellectuelles, culturel, d'administrateurs, d'hommes de finances aussi. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que quand il vient au monde et quand il est un enfant, Jean-Luc Godard a tout. Il a tout à disposition. C'est un enfant de la haute bourgeoisie, ce qu'on appelle la haute société protestante.
La HSP.
réflexe historien. Et donc, il a tout. Il a la culture, il a l'argent, il a les propriétés, l'aisance, l'élégance. Et donc, il en gardera évidemment des traces. Cette culture, c'est quelque chose qui est très impressionnant.
Peut-être pense. Aussi un certain rapport au péché.
Il a le protestantisme aussi. C'est sûr que c'est quelque chose qui. Je pense que ça c'est d'ailleurs un rapport à aussi bien au péché qu'à l'iconoclasme, par exemple, qui va jalonner beaucoup de films de Godard. Mais ce qui est aussi, moi je pense, important, c'est que son entrée dans le monde adulte se fait par des ruptures. Et donc il va rompre aussi bien avec cette famille qu'avec les valeurs de la famille, ne serait-ce qu'en choisissant le cinéma, qui... je dirais, quand il a 16-17 ans, à la fin des années 40, et un art encore, en tout cas peu considéré dans sa famille, qui est une famille de culture, mais qui mettrait la littérature.
Paul Valéry,
le grand-père de Jean-Luc Godard, Julien Monod, est l'homme le plus proche de Paul Valéry.
Son banquier, son secrétaire, tout simplement.
Son banquier, son ministre de la plume, comme l'appelle Paul Valéry. Donc Godard, comme ça, en choisissant le cinéma, d'une certaine manière, déroge culturellement. Et puis, autre trait de caractère vraiment de rupture, c'est le côté voleur. Alors là, on savait des choses, parce que Godard, ça fait partie, je dirais, des faits mythologiques. Il a beaucoup donné dans les entretiens des faits comme ça qui confortent sa légende. Notamment, j'ai volé la caisse des cahiers. Ça, c'était quelque chose qu'on savait.
Vraiment kleptomane, voilà. Disons les choses.
Et donc, en creusant cette piste-là, effectivement, à travers témoignages, archives, documents, on s'aperçoit que Godard était plus qu'un voleur légendaire. C'était vraiment un obsessionnel, un monomaniaque du vol, de la kleptomanie, et qu'il volait tout le monde, ses copains, ses copines, comme d'ailleurs un plan de À bout de souffle le montre, mais aussi, par exemple, le grand-père Julien Monod, dans le Valérianum, c'est-à-dire le Saint des Saints, la bibliothèque qui occupe le centre de l'appartement du boulevard Raspail de la famille Monod, il vole des éditions premières de Paul Valéry, qui va revendre en face à la librairie Gallimard. Évidemment, le grand-père assez vite les redécouvre avec les dédicaces, etc. Et c'est l'exclusion, mais vraiment radicale, du cercle de famille qui vaut d'ailleurs l'un des premiers textes de Jean-Luc Godard, qui est son famille, je vous hais, hein, une sorte de petit pamphlet contre les monos, cette sorte de haute famille qui l'exclut. Et donc il se vit comme ça en rupture. Et ce vol, cette monomanie va revenir évidemment dans les films. C'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est sûr que la manière dont Godard prend les éléments dans des films, dans des textes, sans guillemets, mais en faisant absolument son identité, et c'est quelque chose d'évidemment très important dans les films. Il y a par exemple un scénario comme celui de Nouvelle Vague en 90 qui est entièrement fait de citations prises dans une quinzaine de livres différents de grands auteurs du XXe siècle. Donc voilà, pour prendre cet exemple, effectivement, le fond familial est déterminant, comme tout à chacun, je dirais. Mais il est quand même assez exceptionnel du côté Godard, parce que c'est les monos, et sa volonté de rupture elle-même est aussi exceptionnelle.
On reviendra sans doute sur la dimension suisse. Autre choix, un choix de nationalité, celui-là, qu'il fait à l'âge de 20 ans.
Oui, pour échapper...
Pour des raisons plus ou moins glorieuses.
Voilà, pour échapper essentiellement au service militaire français. On était en pleine guerre d'Indochine. Hein. C'est aussi ça, l'intérêt pour moi d'avoir fait cette biographie, c'est de recontextualiser, évidemment, politiquement, historiquement, tous les grands choix de la vie de Godard.
Alors, autre entrée possible, Antoine Guillot.
Oui, mais qui découle aussi de celle-ci. C'est-à-dire qu'on sent tout au long de ce que vous racontez cette réconciliation impossible, d'une certaine manière, avec ses origines, et notamment avec cette figure du grand-père, ce Julien Monod, dont vous venez de parler, mais qui était aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, assez proche des milieux collaborationnistes. Même Valérie va lui reprocher son antisémitisme. Et si on saute vraiment, alors là, 767 pages plus loin, et là, je vous cite, Godard est à la fois entêté, inflexible, et fidèle à lui-même, car depuis le tournage de Jusqu'à la victoire en 1969, la figure du juif n'a pas varié d'un pouce chez lui. Symbole par excellence de la victime devenue bourreau, il demeure un point aussi aveugle que central de la pensée godardienne. Et vous allez, et c'était d'ailleurs dans le film de Fleischer dont on parlait, un des objets de dispute entre Jean Narboni et Jean-Luc Godard. Et vous allez raconter cette histoire incroyable de l'époque où il y a cette polémique par journaux interposée entre Claude Lanzmann et Jean-Luc Godard sur la question de la représentation de la Shoah et cette fameuse histoire de Lanzmann qui dira « Si j'avais trouvé un jour des images des chambres à gaz, je les aurais détruites. » Et Godard, à l'inverse, disant « Moi, j'attends de les trouver pour vraiment y croire. »
Je suis même sûr de les trouver.
Je suis sûr qu'elles existent, mais on ne veut pas nous les montrer. Et cette histoire incroyable de projet d'émission qui aurait été un débat entre Lanzmann et Godard, arbitré par BHL, et qui deux fois manque de se faire et ne se fait pas.
Oui, ça se fait pas. C'est vrai que ça aurait été passionnant. Ça se fait pas parce que aucun ne veut sortir du bois, d'une certaine manière, sur cette question, ce sujet évidemment si sensible. Les deux se respectent beaucoup, même s'ils sont pas sur la même position. Et aucun ne veut prendre le risque de, en quelque sorte, d'être contré par l'autre. C'est presque une sorte de jeu de, on dirait en football, on dirait qu'il bétonne, quoi. Donc voilà. À chaque fois, l'émission commence. Et puis, ils finissent par parler de la pluie et du beau temps, sans doute, quelque chose comme ça, mais pas du tout. Ils n'abordent jamais la question, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc, oui, mais bon, par ailleurs, c'est vrai que c'est une question, on dirait la question juive, qui est, je pense, assez centrale pour Godard et qui revient très souvent dans son cinéma, je dirais, à partir de, justement, de cette réplique dont on parlait tout à l'heure, « Pourquoi les coiffeurs ?» puisque elle est dans, Une femme mariée, où Jean peut la raconter.
Jean Narboni.
Oui, c'est une rencontre entre Roger Lénart et Macha Meryl, dans le petit aérodrome où le mari de Macha Meryl ramène Roger Lénart, et Roger Lénart lui dit, avec sa courtoisie exquise, oui, je reviens d'Auschwitz, j'ai assisté au procès, etc. Alors, visiblement, elle ne sait pas très bien ce dont il s'agit. Il lui dit, oui, là-bas, il y a eu un procès. Elle dit, ah oui, la thalidomide, parce que c'est un moment où tous les journaux parlaient de ce médicament qui lui donnait des enfants monstrueux, et qu'elle disait dans François, puisqu'elle ne vit que par des slogans publicitaires.
Et puis Lénard, toujours très poli, non, c'est une histoire de juif, là, vous savez, cette vieille histoire. Elle dit, ah bon, ah, Hitler, mécaniquement, réflexe. Et puis Lénard dit, on en a rencontré une bien bonne, d'ailleurs, là-bas. Voilà, c'est quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre et qui lui dit, tu sais, j'ai appris que demain, le gouvernement, ou je ne sais qui, s'apprêtait à tuer tous les juifs et tous les coiffeurs. Et machin Meryl, avec une sorte d'innocence criminelle, lui dit, mais oui, pourquoi les coiffeurs, quoi? Ça, c'est le genre de choses que Godard épingle admirablement, une espèce d'antisémitisme endémique, comme ça, chez une femme qui sort du lit de son amant, qui écoute discrètement Roger Lénard, et qui sait vaguement qu'il est question de ceci et cela.
Oui, mais quelques années plus tard, et ça s'est rapporté aussi dans l'ouvrage d'Antoine de Beck, au moment de l'aventure Ziga Vertov, presque une centaine de pages assez passionnantes sur ce moment de volonté de travail en collectif, donc où Jean-Luc Godard, même s'il est le fer de lance et celui qui est visible, fait partie d'un collectif. Vous racontez cet entretien ou cette tentative d'entretien avec Yasser Arafat, ça dure très peu de temps, et on voit, c'est Godard qui le raconte, donc alors là, vous le citez, Godard qui cherche, il le dit, à faire dire à Yasser Arafat que, en fait, ce que font les Juifs aux Palestiniens, c'est ce que les Juifs ont subi des nazis. C'est quand même une thèse qui revient toujours. Et là, vraiment, quand on lit ça, Yasser Arafat qui dit, non, c'est leur histoire, les Allemands et les Juifs. Et Godard insiste, mais si, vous ne voyez pas le rapport. Quand un Juif était presque mort, on l'appelait musulman. Oui, alors. Et Godard insiste, n'arrivera pas, d'ailleurs, à faire dire ce qu'il veut dire à Yasser Arafat. Là, voilà, moi, c'est une chose que je n'avais jamais lue, que je n'avais jamais su. Voilà, c'est quand même une chose
c'est quand même mon rôle de biographe d'apporter des éléments nouveaux. Mais bon, c'était intéressant évidemment d'informer cette question. Je dirais de moi ce que j'appelle l'antisionisme obsessionnel de Jean-Luc Godard, qui c'est quelque chose qui est assez courant au début, à ce moment-là. Donc on est en 69 quand Godard va tourner en Jordanie, dans les camps palestiniens. La gauche et l'extrême gauche française et internationale a pris assez massivement le tournant à la fois de l'anti-impérialisme américain et de l'anti-sionisme, c'est-à-dire contre l'État d'Israël qui vient de gagner la guerre des six jours. Et l'image de l'État d'Israël à ce moment-là change de tout au tout et, je dirais, de victime, puisque l'État s'est créé sur les victimes de la Shoah, devient, dans l'idéologie antisioniste, bourreau. Et donc Godard est complètement dans cette thèse-là, à la fois parce qu'il est proche des Palestiniens, et puis que dans un film comme Ici et ailleurs, il a ce slogan « Les Juifs font aux Arabes ce que les nazis ont fait aux Juifs ». Donc évidemment, cette phrase, à l'époque, paraît assez banale. Aujourd'hui, 30, 40 ans plus tard, elle est extrêmement... elle peut être choquante, en tout cas, elle est extrémiste, en tout cas. Et je pense que c'est ça que je voulais essayer d'expliquer. Comment est-ce qu'un homme, pendant 40 ans, peut être fidèle à une idée, à cette idéologie de l'antisionisme? Donc, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les conversations de Jean-Luc Godard, dans les films, jusqu'à Notre musique, hein, où c'est central encore dans le dernier film... en date de Jean-Luc Godard il y a 6 ans. Et donc voilà, et c'est aussi l'occasion chez lui par histrionisme, par provocation. C'est quelqu'un qui adore être au centre du débat public et il sait que sur cette question il peut l'être d'une façon très facile, c'est de lancer des petites phrases qui sont d'une ambiguïté constante sur où le basculement entre l'antisionisme et l'antisémitisme peut lui être, on peut lui chercher des noises sur ce côté-là. Donc il adore ça et donc il ne cesse de faire, je dirais, depuis Pourquoi les coiffeurs jusqu'à les comparaisons, les juifs sont dans la fiction et les Palestiniens dans le documentaire, ça continue pendant comme ça 40, 50 ans. Mais je dirais, moi, quand on me dit est-ce que Godard est antisémite, moi je réponds plutôt non. Enfin, non. Je pense qu'il est profondément antisioniste, mais qu'il n'est pas antisémite.
Précision de Jean Arboni, puis on entendra Michel Bouger ensuite. Jean Arboni.
C'est peut-être un point de divergence que je peux avoir avec Antoine, pas du tout sur un supposé antisémitisme de Godard, mais je ne crois pas que la question palestinienne et son soutien à la cause palestinienne soient premières et qu'elle engendre parfois des dérapages qu'on a pu relever chez lui. Je pense que le problème premier chez lui, chez le juif. Mais c'est une question, et la force et le courage qu'il a, c'est de l'affronter parce qu'elle le brûle. Bon, je vais aller très vite. Il vient d'un contexte familial dont on a un peu parlé, peut-être compliqué de ce point de vue, mais barre des préjugés, une imprégnation culturelle et bon, une adolescence ou une enfance au moment de la guerre marquée par des opinions de son grand-père, etc. Une formation très nettement nordique, bon, principalement germanique, avec le meilleur et peut-être aussi le pire. Un passage à Genève dont vous avez parlé, des fréquentations bon, qui ont pu lui être reprochées. À Paris aussi, autour des cahiers, un certain nombre de personnalités comme Jégoff, etc., bon, qui étaient bon, de façon explicite des dandys, séducteurs, un peu droitiers, ayant écrit des choses antisémites. Et je crois que la découverte des camps l'a absolument bouleversé et que c'est une question qui l'affronte. La question du juif, d'abord. Il ne voit pas très bien ce que c'est. Il cherche. Dans les visioconférences que nous avons eues à Rolle, je lui ai lu une phrase de Genet, du captif amoureux, qui est citée dans l'histoire du cinéma et qui est la suivante, en substance. Je n'ai dit, si les Palestiniens n'avaient pas eu pour ennemi, alors ce peuple ténébreux d'abord, ténébreux, très intéressant, il sait écrire, hein, je n'ai, ce peuple qui était à l'origine, ce peuple qui se voulait l'origine, qui se voulait la nuit des temps, si les Palestiniens, la révolution palestinienne n'avait pas eu ces gens-là pour ennemi, aurais-je autant été attiré par elle ? J'ai lu ça à Godard, je lui ai dit, que pensez-vous de cette phrase ? Il m'a dit, je suis entièrement d'accord. Alors, à partir de là, la conséquence hâtive serait de dire, ben voilà, c'est très simple, il aime des gens qui se battent contre les Juifs, s'ils étaient Thaïlandais ou Belges, ce serait exactement pareil. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est sa force et son courage. C'est-à-dire que Genet, c'est pas aussi un antisémitisme ou un antisionisme basique, stupide, vulgaire, l'origine, la nuit des temps, etc. C'est métaphysique. C'est une question métaphysique pour Genet, la question du juif. Et ça provoque chez lui une fascination, une aversion. Chez Godard, il y a le même double mouvement. Alors, il y a deux façons de résoudre ce problème. Ou bien on laisse fuser dans l'antisémitisme vulgaire le fait que cette question, on brûle autour et qu'elle vous brûle aussi par instant. Ou bien on la dénie dans une espèce de bien-pensance antiraciste qui doit dégoûter Godard. Et cette question, donc, il l'affronte, il la traite. Qu'est-ce que c'est que le non-juif ? Qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Bon, il veut convoquer Lanzmann, Wajmann, Bernard-Henri Lévy pour savoir ce que c'est. Et là, il peut y avoir parfois des petites échappées qu'on a pu lui reprocher. Mais je trouve que ce serait l'affadir que de considérer que d'abord, c'est un militant de la cause palestinienne. Ce n'est pas un bon adhérent et ce n'est pas un bon adhésif non plus. Et je n'ai non plus d'ailleurs, hein, parce que quand on lit un captif amoureux, c'est difficilement un livre qu'on peut brandir dans des meetings politiques.
D'ailleurs, Godard, son film... sur la cause palestinienne jusqu'à la victoire, il n'a pas pu le finir.
Bah, il commence comme jusqu'à la victoire et quelques années après, ça devient ici et ailleurs.
Ouais.
Donc, adhérer, c'est très dur pour lui, c'est sa force.
Alors, Michel Bouju, vous qui fréquentez l'homme Godard depuis quelques temps déjà, vous aussi,
oui,
qui avez fait souvent le pèlerinage de Rolle, pour reprendre l'expression de Jean Darbonnet.
Oui, mais j'aime pas trop l'expression, moi non plus, de pèlerinage.
Non,
mais c'est pour ça que je vous taquine avec, Michel.
Vous avez bien raison, je ne suis pas un dévot de Godard,
non.
Je suis un profond et fidèle admirateur avec une notion qui a à voir aussi avec probablement l'amour. Bon, moi, je trouve que cette biographie de Debecq est proprement saisissante. Et il faut insister qu'effectivement, on y apprend beaucoup. Même les gens qui en savent un peu sur Godard, on y apprend énormément. Ça, c'est une chose sur laquelle vraiment il faut insister. Donc, sur Godard, le roman familial de Godard, l'homme Godard que nous voyons comme ça au fil de ces 900 pages, ce romantique qui qui ne supporte pas d'être romantique et sentimental comme il l'est, qui a connu plusieurs, il faut bien le dire, c'est dans le livre, plusieurs tentatives de suicide, et toujours pour des raisons de relations amoureuses, déçues, des échecs. Donc là, nous avons le détail, et ce n'a rien à voir avec une espèce de pipolisation, bien évidemment pas. C'est absolument fondamental pour comprendre le cinéma de Godard. Combien de films de Godard ont été tournés, c'est dit dans le livre d'Antoine de Beck, dans des conditions justement où Godard affectivement était extrêmement mal, extrêmement malheureux. Et ça, c'est une des dimensions du livre aussi. Cet homme, il porte une forme de malheur en lui. C'est un destructeur, bien sûr. La façon dont il humilie un certain nombre de gens très proches autour de lui, des amis, des techniciens, des acteurs, des actrices, autodestructeur, bien évidemment. Donc il y a tout ça dans ce livre. Et ça, c'est une chose que... je pense qu'après avoir refermé cette biographie, on ne reverra plus les films de Godard avec le même œil et le même cœur. Et je le dis avec conviction profonde.
Bah, dit par vous, Michel Gougeux. Mais non,
et puis, ça, je voudrais ajouter dans un autre ordre d'idées on a évoqué le protestantisme de la famille de Godard, évidemment, et ça, c'est une chose extrêmement protestant vaudois, c'est encore particulier, évidemment.
Au carré.
Mais un protestant, Godard, moi, que j'ai toujours vu comme un protestant, il y en a d'autres, fasciné par les ors du baroque catholique, je dirais. Et c'est pas, il a quand même fait un film qui s'appelle, et qui n'est pas des moines, qui s'appelle « Je vous salue Marie ». Ça, c'est pas un cri du cœur des protestants, puisqu'elle n'existe pas en tant que sainte, naturellement. Donc il y a cette dimension-là, et ça, c'est tout à fait passionnant aussi, quoi. Et alors, évidemment, jusqu'à la fin, cette relation avec les femmes, de plus en plus jeunes, amateur de... c'est bien dit dans le livre.
Lui-même se dit un peu un ogre là-dessus.
Un ogre, voilà. Il y a Jacques Chessé, un autre Suisse, qui a écrit L'Ogre, qui est un beau roman. Amateur de chair fraîche. Et là, on se dit, mais au fond, cette relation, par exemple, avec Myriam Roussel, sa comédienne de Je vous salue Marie, précisément, c'est tout à fait Hitchcock et Tippi Hedren, avec quelque chose de douloureux, d'un peu pathétique, probablement, puisque... Les pages sur Anna Karina sont superbes parce qu'on y sent une vérité et le biographe a fait son travail de biographe en s'approchant de très près de cet homme et de ce créateur et en prenant aussi de la distance avec lui.
Le lecteur a une question, vu Michel rapproché, Bouger.
Oui.
Ou il a alors, des
ma
réponses.
Question, non, j'ai beaucoup
plus... On est
dans
l'admiration.
Je me demande... Est-ce que Antoine de Beck imagine aujourd'hui Godard avec sa biographie posée sur sa table de nuit de chevet?
J'ai du mal à l'imaginer puisque j'ai aucune nouvelle.
Qu'est-ce qu'il va
faire? C'est bon signe parce qu'il avait
faire un film.
Qu'est-ce qu'il va en faire de ce livre?
Je ne sais pas. Parce qu'on disait peut-être pour caler une bibliothèque, pour voir si ça flotte dans le lac Léman. Non, moi j'aimerais qu'il la lise, évidemment, qu'il la lise jusqu'au bout, parce que c'est vrai que dans ce travail, il y a à la fois, c'est sûr une prise de distance. D'ailleurs, j'ai pas voulu le faire avec lui, parce que je savais que, d'une part, ça menait à une sorte d'entreprise impossible, qui beaucoup de ceux qui se sont rapprochés de Godard en ont beaucoup souffert, et notamment leur entreprise s'est tout d'un coup a volé en éclats. Je dirais, je parle longuement de Dominique Paigny, qui était un très proche de Godard à un moment sur son exposition à Beaubourg, et tout a volé en éclats, je dirais, par la volonté de Godard de détruire les choses. Donc je ne voulais absolument pas affronter à un moment cette lecture de Godard qui m'aurait dit bah, non, là, il faut tout enlever, c'est pas possible. Parce que forcément, il aurait eu cette réaction-là, puisqu'il n'aime pas le principe biographique, il est contre ce principe biographique. Donc, oui, moi, j'attends une réponse, j'attends, mais en même temps, je pense que Il n'y a pas besoin non plus de répondre.
Enfin, les précédents biographes ont eu des retours cinglants, ce qui est, donc ne pas avoir de nouvelles pour l'instant en est plutôt une bonne. Rapidement, pardon, Antoine Guillaume.
Oui, très rapidement, est-ce que vous avez été surpris justement en faisant ce travail, à quel point cette statue quand même que s'est construite Godard, y compris médiatiquement parlant, très impressionnante, terrorisante même parfois, se révéler être triste et fragile?
Ah ben, je pense que, Michel Bouju l'a dit, Godard est quelqu'un qui se nourrit de sa propre tristesse, de sa propre douleur, souvent. C'est quelqu'un qui est plus à l'aise quand ça va mal que quand ça va bien. Et il organise notamment les tournages en fonction de ça. C'est sûr que c'est important pour lui qu'un tournage se passe mal, parce que, justement, le film va enregistrer aussi ça et sera bien plus intéressant d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'est toujours plus intéressant quand ça se passe mal que quand ça se passe bien. Donc oui, je pense que Godard est quelqu'un qui est profondément mélancolique aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été qui a traversé beaucoup d'épreuves, qu'il a souvent voulu, hein, il a souvent voulu affronter ça. Il a souvent aussi organisé sa vie pour qu'elle soit une forme d'impasse, et il a aussi à de nombreuses reprises cassé ce qu'il était devenu. C'est-à-dire que en 67, il était la plus grande peut-être vedette culturelle française des années 60, et il casse complètement ça pour s'enterrer dans une sorte de cave avenue du Maine pour faire des films collectifs avec le groupe Ziga Vertov. Et de la même manière, je dirais 20 ans plus tard, en 87, il recasse quelque chose. Il était revenu au centre du cinéma, au centre des médias, et de nouveau comme s'il prenait une batte de baseball et qu'il fracassait en mille morceaux ses films et sa vie. Mais c'est comme ça aussi qu'il est, qui reproduit et qui reste créateur. C'est par ces ruptures-là.
Et à ce titre, les lettres qu'il écrit à Pierre Braunberger pendant le tournage à bout de souffle, dans un bonheur total, contrastent évidemment avec la suite. Pascal Horry.
Et justement, ce qui me frappe, c'est presque l'inverse. En tous les cas, ça rejoindrait la conclusion d'Antoine Debecq, c'est-à-dire qu'avec cette fragilité, ce livre contribue à renforcer la statue qui a commencé à être édifiée, je dirais, exactement il y a 50 ans, parce que c'est le 16 mars 1960 qui est sorti à bout de souffle. Et on a l'impression que depuis ce moment-là, il est au centre quand même. Il y a un peu de, le mot est peut-être prononcé, d'histrionisme, mais il y a évidemment une force esthétique, il faut quand même parler des films, qui est posée au centre. Et il réussit, même en étant absent, à être toujours au centre. Ça, c'est quand même sa grande réussite. L'idée que c'est un génie, on la trouve dès 1960, quasiment sous certaines plumes, c'est impressionnant.
Jean Arboni, un commentaire là-dessus, pour finir?
Non, sur la mélancolie et le pessimisme, oui. Moi, je serais tenté de dire à son propos ce que Deleuze disait de Bacon, ou ce que Bacon a dit, à savoir, bon, peut-être intellectuellement ou affectivement pessimiste, mais nerveusement optimiste. Ce qui me frappe dans le livre, qui est très impressionnant, c'est à quel point, d'abord, il y a une faculté résurrectionnelle, enfin, il y a des vies de Jean-Luc Godard, et c'est quelqu'un qui est constamment en train de travailler. Hein, les projets aboutis, les tentatives avortées, les films commencés, non terminés. Et il y a une puissance énergétique, créatrice, qui fait que jamais ces films ne sont déprimants. Même les plus mélancoliques, comme JLG, ont une sorte de tonicité qui emporte, qui ravage cette déréliction. Vous voyez, il y a une phrase de Kafka qui est citée souvent dans ses films, dans Nouvelle Vague en particulier, et qui, je crois, pourrait rendre compte de beaucoup de son travail. C'est une phrase sublime du journal, c'est « Le positif nous est toujours déjà donné, il nous reste à faire le négatif. » Et bon, je crois que autour de cette phrase, beaucoup de choses peuvent s'aimanter du travail de Godard.
Voilà, le travail en tout cas d'Antoine Debecq, le plus récent. Il donne ce formidable ouvrage, Godard, biographie, publié chez Grasset. Merci à vous, Antoine Debecq, d'être venu nous parler de ce livre. Et merci à Jean Arboni d'avoir apporté un éclairage toujours précieux. On reparlera le mois prochain de Pourquoi les coiffeurs, livre à sortir de Jean Arboni. Ça sortira chez Capricci dans un mois, fin avril. Nous en reparlerons à ce moment-là.